Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, de nous revenons de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, hein, bonjour à toutes. Eh bien aujourd'hui, on va partir de Montpellier vers le Maroc, du Maroc vers Montpellier, voilà. Alors avec nous, pour parler de tout cela, Jean-François Dor, qui est architecte, spécialiste de l'architecture végétale. Alors, il est là-dedans depuis de longues années. En 1996, il obtient une bourse Erasmus qui lui permet de se balader un peu sur toute l'Europe, les Pays-Bas, etc. En 2000, il crée Vision. Alors, si vous l'écrivez, c'est Vision avec l'arrobase. Il se spécialise dans l'architecture durable. Alors, on dit de lui que c'est un architecte humaniste et vert, hein, mais on lui doit beaucoup d'initiatives et d'innovations. Ensuite, il se spécialise dans l'architecture végétale et autonome et crée Green Wall. Donc vous comprendrez tous que c'est le mur vert et on va avoir l'occasion d'en parler. Avec, pour finir, enfin bon, pour finir non, parce qu'il est en plein dans l'innovation, un livre chez Erol en 2011 sur la végétalisation et la ville. Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes, on va revenir un petit peu sur, sur ce parcours. Et comme on ne peut pas tout faire, parce que vous êtes vraiment un homme à la main verte et aux mille facettes, hein, on va travailler un petit peu. Vous avez lancé les murs végétaux. C'est un peu la première grande expérience grand public, quoi.
Tout à fait. Au début des années 2000, alors que je suis diplômé d'architecture de l'école de Delft aux Pays-Bas, je crée à Montpellier la société et la marque Green Wall. Donc c'est la première société qui a pour objet social la végétalisation de l'architecture de la ville. Ça n'existait pas avant. Le terme végétalisation n'était pas connu. J'avais d'ailleurs déposé la marque internationale Végétalis. Et quand je parlais de végétalisation, les gens arrondissaient les yeux, ils ne comprenaient pas quel intérêt il y avait à végétaliser les murs et les toits des bâtiments, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et avec mon partenaire
c'était
scientifique...
C'était il y a combien de temps, ça, alors ? Il y a
2000.
Une vingtaine d'années.
Ah oui, ça fait 25 ans.
30 ans, presque.
Presque un quart de siècle, ça ne me rajeunit pas. Et j'ai noué un partenariat avec le CIRAD à Montpellier, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomie et développement. Et j'ai eu un ingénieur docteur qui a été délégué auprès de mon entreprise pendant plusieurs années. Et on a déposé les brevets pour ces façades végétalisées modulables. Et la marque Green Wall, si vous tapez sur votre moteur de recherche aujourd'hui, c'est devenu complètement viral. Il y a des millions d'occurrences. Alors qu'encore une fois, en 2000, Green Wall, ça ne voulait rien dire d'autre que le mur vert.
Mais vous n'êtes pas à l'origine de toutes ces initiatives, bien sûr.
Ah bien,
c'est répandu dans le monde.
La traduction du mur végétal en anglais, c'est plant wall, c'est pas green wall. Et green wall, c'est vraiment la marque que j'ai déposée. Et maintenant, il y a des copies de ces brevets en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Australie, même au Japon. Ça, c'est vraiment complètement répandu.
Alors, je suppose que vous suivez l'avancée des murs verts. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez un réel progrès sur cette dimension ?
Alors, le travail d'évangélisation que j'avais à faire, et je me suis attaché à le faire au travers du livre Architecture végétale chez Erol en 2010, il a eu lieu, il est fait. Maintenant, quand je parle de murs végétaux, les gens visualisent tout de suite ce que ça peut être. Par contre, il y a encore, ce terme de végétalisation est tout à fait galvaudé. C'est-à-dire qu'on parle de végétalisation alors qu'on a simplement mis 3 ou 4 plantes dans des jardinières et qu'on n'a pas du tout travaillé ni sur l'acoustique, l'absorption des eaux pluviales et aussi les paramètres sociétaux.
Oui, on pourrait par exemple, en regardant le parking de la gare de Montpellier, se dire que c'est un mur végétal sous prétexte qu'il y a quelques plantouilles qui pendent.
C'est ça, il ne faut pas confondre l'image avec les réelles performances d'une végétalisation. Un mur de plantes grimpantes n'a pas de performance à l'absorption des bruits aériens. alors que c'est fondamental en ville. Ça n'a pas de performance non plus au niveau de la biodiversité, de la thermique. Et donc, on prête souvent à cette végétalisation des propriétés qu'elles n'ont pas. On entend dire, oui...
C'est-à-dire, on ne voit que le vert, en fait.
C'est ça. Je plante des arbres au sommet d'une tour et je vais dépolluer l'air qui est en bas. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle je me bats, de délivrer le bon message pour que cette végétalisation qui est nécessaire, elle se fasse avec beaucoup de qualité, en fait.
Alors, c'est compliqué, je suppose, de créer un vrai mur tel que vous venez de le définir. Est-ce que vous pouvez, en deux, trois mots, enfin pas trop longuement, nous expliquer un peu quel est le processus ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça fait appel à un savoir-faire qui est pluridisciplinaire. On retrouve bien la définition du terme architecture, avec des savoir-faire qui sont liés à l'agronomie, à la botanique, bien sûr, mais aussi à l'acoustique, la thermique, l'ingénierie structure.
Donc ça, c'est ce que vous venez de nous dire. Alors maintenant, qu'est-ce que nous, on voit de l'extérieur, parce que tout cela, bien sûr, c'est dans votre cahier des charges d'architecte, mais nous, en tant que passants ou occupants de la ville, quelle est notre appréhension d'un vrai mur végétal et d'un faux mur végétal ?
Alors, tout le système de Greenwall et le brevet repose sur l'idée de la création d'un pixel végétal qui va être composé d'espèces...
Un pixel végétal, c'est-à-dire ?
Ce sont les murs végétaux modulables. C'est une série de petits modules qui sont juxtaposés sur une grille métallique qui est elle-même fixée au mur support en ménageant une lame d'air. Et ces pixels contiennent chacun des espèces et variétés végétales différentes. Et je dis souvent, le stylo de l'architecte végétalisateur n'est pas un pinceau, c'est un aérographe. C'est-à-dire qu'il faut savoir mélanger, ne pas faire de monoculture et mélanger beaucoup d'espèces, variétés végétales
qui vont grandir.
Qui vont grandir de manière à créer un véritable biotope qui va être autonome et qui va vivre.
Donc finalement, je passe devant mon mur végétal tous les mois, il a changé.
Exactement. Et on rentre dans cette quatrième dimension de l'architecture qui est le temps. Et c'est ce que j'explique aussi dans ce livre Architecture végétale. Et c'est un peu une innovation. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais deux fois un mur végétal dans le même état, puisque naturellement, il y a un effet saisonnier. Mais d'une année sur l'autre, c'est une matière qui, au contraire des autres matériaux d'architecture qui s'usent, cette matière va se bonifier avec le temps. Et donc, c'est une architecture qui joue avec le temps et qui ne subit pas l'usure du temps.
Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de vos réalisations? Donc, je sais que vous avez travaillé en Italie.
Oui. Voilà. Alors, pour les murs végétaux et la société Greenwall, c'est plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de murs végétaux qui ont été installés. Pour parler de ceux qui sont en Italie, puisqu'il y a là-bas le record du monde du plus grand mur végétal qui a été obtenu en 2013, labellisé par le Guinness Book Records, il est sur la façade du plus grand centre commercial d'Italie. Et par exemple, il s'est remboursé par les économies d'énergie engendrées sur le centre commercial derrière, au terme de la garantie décennale. Et donc, on touche...
Donc ça, c'est un pari. Est-ce que vous le faites savoir ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai fréquenté beaucoup les COP sur le climat, les problèmes d'adaptation, et finalement, on parle peu de ce genre de réussites, qui sont des réussites concrètes.
Ah, tout à fait. Et on voit que ça marche dans le secteur industriel et commercial. À Milan et à Paris, c'est Auchan. J'ai travaillé aussi pour Louis Vuitton à Paris pour l'aménagement de leur magasin, mais des promoteurs aussi, des logements sociaux, c'est important d'en parler, avec FH Construction, donc pour montrer que cette végétalisation de l'architecture, ce n'est pas qu'un produit de luxe réservé aux plus fortunés, mais que c'est compatible avec des exigences économiques. Et j'ai pour habitude de dire, une solution environnementale, elle n'est valable que si elle est économiquement viable.
Alors, vous travaillez actuellement énormément sur les hôpitaux, avec des innovations fabuleuses.
Alors oui.
Alors à Paris, mais à avant, Paris. Et on parlera tout à l'heure du Maroc, puisqu'on aura une deuxième partie sur le Maroc, mais disons à Paris, vous travaillez beaucoup à la Salpêtrière, à la Pitié Salpêtrière.
Voilà, pour remonter l'historique, j'étais intégré en 2013 au groupe de recherche Hommes et Nature, qui se réunit depuis 2013 à la Fondation Hugo du Collège de France. Nous sommes 21 experts, ça a duré 10 ans, nous avons conclu ce travail d'une décennie par la publication d'un livre qui s'appelle « Sapiens, métamorphose ou extinction » chez Humaine Science. Et en ce qui me concerne, justement, l'intérêt de ce groupe, c'est d'avoir une réflexion transversale, systémique entre nous. Et par exemple, je travaille avec le professeur David Cohen, qui est pédopsychiatre.
Mais vous travaillez surtout pour les enfants.
Et voilà, on a mis au point un mur végétal pour les enfants autistes à Pillé-Salpêtrière et qui nous a permis de valider l'effet thérapeutique de ces murs végétaux sur ces enfants et dans l'absolu. C'est-à-dire que l'interaction entre le végétal, les plantes et les enfants favorise leur bien-être et leur santé mentale.
Alors ce sont des enfants qui ne sortent pas du tout, qui n'ont pas le droit de sortir. Les enfants autistes, en principe, sont cantonnés dans l'hôpital. Et votre innovation, là, vous leur apportez quoi exactement ?
C'est ça le problème des personnes qui sont hospitalisées, c'est qu'elles sont coupées de la nature. Et la végétalisation sur les toits de l'hôpital Pillé-Salpêtrière permet à ces enfants de se reconnecter avec la nature alors qu'ils sont dans un environnement intérieur fermé. Et de manière générale, c'est aussi ce qui a été vu avec l'ensemble des psychiatres et sur l'ensemble de la population urbaine. La végétalisation de la ville apporte des bienfaits par rapport à la santé mentale des citadins, dont on se rend compte qu'ils sont, pour certains, dans les grandes villes comme à Paris notamment, coupés complètement de l'environnement naturel.
Alors, de l'hôpital de la Salpêtrière, finalement, vous êtes aujourd'hui sur un très gros projet sur l'hôpital de Rabat.
Absolument. À Rabat, je végétalise le nouvel hôpital de Rabat qui est en cours de construction. Donc, c'est une tour qui fait 120 mètres de haut.
Alors, nos auditeurs le verront parce que le podcast qui accompagne mettra en ligne cette photo. C'est énorme. C'est une immense tour.
C'est vertigineux et c'est un mur végétal qui fera plus de 100 mètres de haut, donc qui est tout à fait vertigineux, qui pose des contraintes inédites puisque en haut de la tour, on a des vents continus. Et puis, on est à Rabat, au bord de l'océan. En Afrique du Nord, donc le climat est particulier, il a fallu aussi composer avec une soixantaine d'espèces et variétés végétales locales, autochtones donc acclimatées, parfois même des plantes endémiques qui viennent de l'Atlas.
Oui, vous allez les chercher très loin, jusque dans les montagnes.
C'est ça, pour composer la palette de végétaux qui vont faire vivre ce mur, qui vont vivre dans ce mur, et je mets en œuvre tous les travaux que nous avons pu faire avec David Cohen en psychiatrie, puisque encore une fois, quand on est hospitalisé, on n'a pas forcément l'occasion de se reconnecter avec la nature. Ce mur végétal est traversé par des passerelles tout le long de sa hauteur. Et si vous êtes hospitalisé au 29e étage de la tour, vous aurez toujours la possibilité de retrouver un jardin de plantes aromatiques, de petits fruits, pour créer cette interaction entre humain et végétal, qui encore une fois, on l'a prouvé, améliore la santé mentale.
Alors, votre renommée, c'est aussi de construire des choses qui sont autonomes. Est-ce que vous croyez qu'un mur végétal avec une complexité pareille continuera de vivre sans vous ?
Alors oui, tout à fait, parce que notamment, pour prendre un projet en région Occitanie, la grotte de la Salamandre, où j'ai créé un plafond végétal à l'intérieur des bâtiments. Donc là, cette fois-ci, les plantes poussent à l'envers au plafond. C'est un bâtiment qui est autonome en énergie et on peut l'alimenter avec le recyclage de l'eau de pluie.
D'accord. Donc finalement, elle vit aujourd'hui, elle a quel âge ?
Les projets les plus anciens datent de 2000, donc ils ont 25 ans. Le mur végétal de Milan a dépassé la quinzaine d'années.
Et pour ce qui est... vous êtes retourné le voir,
il est
beau ?
Oui, c'est une splendeur.
Il est où à Milan, si on veut aller le voir ?
Au champ Fiordaliso, j'ai donné la marque, mais au centre commercial Fiordaliso, qui est au sud de Milan, qui est le plus grand centre commercial d'Italie. Et on peut le voir même par Google Street View sans aucun problème. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, et la nécessité de composer avec la contrainte de l'eau quand on est en Afrique du Nord, comme ici à Montpellier de l'autre côté de la Méditerranée, il y a le recyclage de l'eau pluviale et sous la tour on a une cuve en béton qui recycle toutes les eaux pluviales de la tour et qui sert à l'irrigation du mur végétal.
Donc vous arrivez à faire remonter l'eau sur les 40
étages ? Avec des pompes, on fait monter l'eau tout simplement et avec des électrovannes etc. Et on irrigue les murs végétaux. C'est pareil pour les hypermarchés, c'est l'eau pluviale de la toiture qui irrigue les murs végétaux de la façade.
Et est-ce que par exemple ces innovations que vous menez sur l'hôpital de Rabat pourraient être utilisées dans nos villes si nos villes passent demain à plus de 50 degrés ?
bien entendu, il y a cet effet au rafraîchissement urbain, à la lutte contre les îlots de chaleur urbains qui doit nécessairement s'accompagner de la déminéralisation des villes et pas seulement faire de la végétalisation esthétique. Il faut tenir compte aussi de l'incidence des vents, c'est très important. Mais effectivement, non seulement la ville à 50 degrés, mais l'absorption des eaux pluviales, donc la gestion des inondations, les canicules et l'absorption des bruits aériens qui est très importante, qui est certifiée à 4 par le Centre des sciences techniques du bâtiment. Et il faut savoir que le bruit en ville est la première source de désordre causé à l'être humain. Donc on voit bien qu'on travaille sur la santé mentale avec la végétalisation à tout point de vue.
Alors, donc finalement, de ces murs végétaux, puisque ça a été quand même votre première expérience concrète au Maroc, vous êtes passé à votre architecture, enfin votre métier de base qui est l'architecture, et vous êtes aujourd'hui sur des chantiers de construction.
Oui, on peut parler...
Alors justement, avant, peut-être parce que vous allez nous les expliquer, c'est vrai que très souvent, quand on est à Paris ou ici en Europe, il y a une espèce de regret, d'un abandon de, disons, de l'architecture traditionnelle du Maghreb, avec la terre cuite, avec le retour aux matériaux qui finalement... ne sont pas très bons pour le climat comme le béton. Or, vous avez, vous, travaillé, et on a l'impression qu'on pourrait apprendre beaucoup de choses, finalement, faire remonter pas mal de choses depuis le sud vers nous. Et vous dites que non, au contraire, vous leur avez appris énormément de choses, tout en respectant leur culture.
C'est ça, c'est un transfert de technologie que je fais actuellement. Et par exemple, on peut citer, puisque je construis également des bâtiments, le système de bâtiment en ossature bambou qui a eu le prix de l'innovation à Bâtimat 2022 du trophée des bâtiments résilients, qui est construit qu'avec des matériaux naturels recyclables et ou compostables, qui est parasismique et paracyclonique, donc il peut très bien intéresser le Maroc, mais aussi Mayotte ou La Réunion.
Donc il n'est ni en béton, ni en...
Il n'y a pas un gramme de béton, c'est une ossature de bambou avec du
donc
bois.
Donc c'est en bois.
Et
c'est...
il est entièrement végétalisé, et là encore avec des plantes toujours locales, autochtones.
Et alors, ça peut, enfin, c'est un exemple, mais...
Et le prix, moins de 1200 euros le mètre carré, on en rebondit sur ce que nous disions tout à l'heure. Construire écologique, ça ne veut pas dire construire plus cher. Au contraire, c'est souvent construire moins cher et de manière plus pérenne par rapport aux contraintes, le vent, les cyclones, les tremblements de terre.
Et c'est un bâtiment, une maison, ou bien ça peut se traduire sur un lotissement ?
Ça peut se traduire sur un lotissement, un quartier tout entier. Le prototype est à Saint-Privat de Champclos, à côté de Barjac, en région Occitanie. Il a été développé en partenariat avec l'université de Gand en Belgique. Donc, vous voyez, Gand en Belgique et université de Rabat. Et il fonctionne depuis 10 ans, puisqu'il a été livré il y a une dizaine d'années maintenant.
D'accord. Et alors, vous en avez construit beaucoup ?
On en a construit plusieurs et on a les agréments maintenant pour construire des établissements recevant du public de plus de 350 mètres carrés sans point porteur, 20 mètres de diamètre. Et il y a eu notamment au Floralie de Gand, trois de ces bâtiments qui ont été installés.
Alors, simplement aussi, revenez un petit peu sur la dimension antisismique, parce qu'effectivement, on sait que le Maroc a un très très mauvais souvenir avec Agadir et reste extrêmement soumis aux tremblements de terre. Enfin, il y en a eu un il y a assez récemment, donc ils y sont très sensibles. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ?
Alors, au Maroc, on a une sismicité qui est forte à peu près partout. Il y a aussi une pluviométrie qui a beaucoup évolué, qui devient très importante. Donc, ces toitures végétalisées que je réalise, elles absorbent 200 litres d'eau par mètre carré. Et on sait que quand on a, par exemple, chez nous, un épisode Cévenol, c'est justement 200 litres d'eau par mètre carré. Et dans les bâtiments comme la cité scolaire de Montpezat, en Ardèche, il y a eu des inondations et il n'y a plus d'inondations depuis que tous les toits sont végétalisés. Et on peut végétaliser également les routes, c'est-à-dire participer au dégoudronnage des voies, de manière à ce que nos chaussées absorbent l'eau pluviale au lieu d'aggraver le phénomène d'inondation.
Bien, alors on sait que forcément quand on travaille à l'étranger, on est soumis à la culture dans laquelle on travaille. Est-ce que ça vous a obligé à faire beaucoup de de ménage dans vos idées, comme dirait l'autre.
C'est très intéressant de travailler à l'étranger, justement, parce qu'on a un œil neuf sur l'aspect culturel qu'on n'a pas forcément quand on vient du pays, et notamment pour les murs végétaux qu'on va installer à la gare de Rabadi, le long des quais. J'ai proposé de travailler avec les plantes à parfum, en soulignant à mes interlocuteurs de ONCF, qui est l'équivalent de la SNCF, qu'il y avait cette tradition millénaire au Maroc sur le parfum, et qu'on pouvait l'utiliser à notre profit pour parfumer les quais de gare avec ces plantes à parfum, et encore une fois, une ergonomie nouvelle donnée à l'architecture, parce que bien sûr, un mur en béton n'aura jamais toutes ces qualités-là.
Alors, c'est quoi le parfum marocain ?
Alors, la rose était la plante la première cultivée par l'être humain pour ses parfums, mais il y a des tas de fragrances. Et par exemple, dans les géraniums, vous avez des tas de parfums dans les géraniums qui sont parfois surprenants. Il y en a un qui sent le Coca-Cola, il y en a un qui sent le cassis.
Le citron aussi.
Le citron, et qui chasse les insectes. Donc, vous voyez, à nouveau, l'ergonomie de cette architecture végétale, on peut avoir des murs qui sont parfumés et qui soient répulsifs aux insectes comme les moustiques.
D'accord, oui, parce que ça, c'est un des arguments que nous oppose parfois l'EID, enfin l'organisme montpelliérain qui travaille sur les insectes, en nous disant, vous savez, on ne fait pas de mur végétal à Montpellier parce que ça attire les moustiques.
Ce qui est faux, puisque toute la technologie repose sur un substrat hydro-rétenteur, donc il n'y a pas d'eau stagnante ni dans les murs végétaux, ni dans les toits végétaux, ni même dans les chaussées végétalisées, et au contraire, on absorbe 200 litres d'eau par mètre carré, donc lorsqu'il pleut, l'eau, elle est entièrement absorbée pour être réutilisé par la plante ensuite.
Les Italiens doivent actuellement être très sensibles à ce type de proposition.
Bien sûr, et ce n'est pas un hasard que les murs végétaux Green Wall ou les toitures que je propose aient intégré cette dimension, puisque dans mon équipe scientifique du départ, il y avait un docteur en entomologie, et que justement, parlant de cette nécessité d'alimenter une réflexion pluridisciplinaire, c'est bien parce qu'il y avait un entomologue dans l'équipe qu'on a pu répondre à cette contrainte en amont dès la recherche.
Alors vous me répondez essentiellement sur les moustiques, mais c'est aussi valable sur l'eau, parce que actuellement, ils sont soumis à des tornades épouvantables.
Ah oui, je reviens du Maroc, à Rabat, là, il y a très peu de temps, hein, même pas une heure, il y avait 40 cm d'eau dans les rues, parce que malheureusement, tout est goudronné comme chez nous. Donc immédiatement, quand on a 200 litres d'eau par mètre carré, ben, vous faites la multiplication, au bout de 1000 mètres carrés, ça devient des centaines, des milliers de mètres cubes d'eau que la ville n'est pas capable d'absorber. C'est pourquoi il faut aller vers la ville éponge, une ville qui permette d'absorber toutes ces eaux et qui continuera de fonctionner malgré l'évolution du climat.
Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble parce que j'envisage très fortement avant Noël de vous retrouver qu'on discute un petit peu de la ville à 50 degrés parce qu'on aura passé l'hiver, on aura passé l'été plutôt et les canicules et oui. Ce sera le moment d'en parler. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu. En fait, depuis que vous êtes à Rabat, vous avez fait toutes ces constructions dont on vient de suivre un peu le cheminement. Et puis maintenant, vous voilà enseignant.
Là, oui, on m'a demandé d'ouvrir une nouvelle matière d'architecture, une matière inédite qui s'appelle « Végétaliser l'architecture et la ville ».
Donc ça se transmet, ça y est.
Ah, c'est un vrai transfert.
Ça s'est gagné, là.
C'est un vrai transfert de technologie vers les futurs architectes marocains. Ce sont eux, mes étudiants, qui vont construire le Maroc demain. Donc c'est à eux que je m'adresse en priorité. Ce sont les 4e, 5e années. Et l'intitulé du cours, c'est « Hybrider le vivant à l'architecture » avec des notions sur la botanique, sur l'ethnobotanique, la thermique, l'acoustique, la structure et le management de l'innovation, parce que vous en avez parlé au tout début de l'émission. La particularité que j'ai, c'est que dès que j'ai été étudiant, j'ai déposé mes premiers brevets, j'étais encore à l'école d'architecture. Et donc, j'apprends aux étudiants à innover et à savoir manager ensuite cette innovation pour passer d'une idée à sa réalisation et à sa commercialisation.
Oui, parce que je suppose que dans votre métier comme dans le nôtre, et comme dans bien d'autres aujourd'hui, c'est un peu la guerre contre toutes les copies.
Le reproche qu'on pourrait faire à l'enseignement de l'architecture tel qu'il est pratiqué actuellement, ou en tout cas à l'ancienne, c'est de ne pas projeter suffisamment les étudiants dans le monde réel et l'activité économique.
Et
de ne pas les mettre
pour tout, ça,
en situation réelle d'exercer et de gérer une activité. Et par exemple, dans les étudiants de mes classes, j'ai un groupe d'étudiantes qui ont mis au point un système de station pour vélo électrique pour Casablanca, dont les murs et les toits sont végétalisés. C'est une pure invention. Et j'espère qu'elles vont arriver à la mener jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation industrielle, parce que c'est tout à fait adapté à l'évolution à la fois environnementale, c'est une réponse environnementale, climatique et sociétale, j'y tiens beaucoup, puisqu'il y a une évolution au Maroc vers le vélo, on utilise beaucoup le vélo à Casablanca et de plus en plus, et donc effectivement il va falloir accompagner cette transition écologique et donc trouver les moyens de stationner un peu partout des vélos dans la ville.
Alors, ce que vous faites également, c'est que vous importez là-bas votre savoir botanique que vous avez un peu approfondi à Montpellier avec le CIRAD, mais beaucoup aussi avec le Muséum, avec le Collège de France, etc. Et donc, vous aidez les Marocains peut-être à reconnaître leurs richesses.
Oui,
et parce que souvent, on l'oublie quand on est sur place.
C'est vrai. Et ma maxime, c'est de dire qu'il n'y a pas de savoir-faire sans faire savoir et que les deux sont liés et qu'il est important, effectivement, de partager une connaissance pour que, justement, elle puisse nous dépasser et vivre. Et là, en l'occurrence, le Maroc a une tradition dans le béton. C'est un pays qui construit beaucoup en béton et qui doit absolument maintenant assurer sa transition. Et c'est perçu par tout le monde, les étudiants, mais les professionnels, les maîtres d'ouvrage, qu'on doit faire ville autrement en intégrant cette évolution du climat que l'ensemble, de manière très forte au Maroc, vous l'avez souligné, peut-être plus forte que nous, avec ces inondations catastrophiques qu'il y a eu et qu'il y a actuellement, et où on voit bien que le climat est en train d'évoluer complètement et très vite.
Mais vous me disiez également, quand on préparait cette émission, que finalement la biodiversité s'abîmait là-bas autant que chez nous, et aussi vite.
Autant que chez nous, aussi vite, et peut-être plus encore, peut-être par contraste, puisque chez nous, ça fait un moment que la biodiversité s'érode, et que dans ces pays-là, l'Afrique du Nord notamment, il y a des zones encore comme l'Atlas, où on peut penser que la biodiversité persiste, mais elle s'érode tout aussi vite, et il est fondamental de la préserver au Maroc comme en Europe.
Alors, vous avez découvert le long des murs des espèces que vous allez réutiliser, et que vous apprenez aux botanistes locaux.
C'est ça, en travaillant avec les horticulteurs marocains, qui sont ceux qui fournissent les végétaux pour ces végétalisations marocaines, je leur demande de travailler qu'on est sur un petit groupe d'une soixantaine, entre 60 et 80 espèces et variétés végétales, qui sont toutes autochtones, c'est-à-dire qui viennent du Maroc, et certaines même endémiques, comme la marguerite du Maroc, qui pousse uniquement en haut de l'Atlas, et que l'on multiplie à Rabat, pour la mettre ensuite sur les murs végétaux au sommet de l'hôpital, ce qui fera une sorte de backup pour cette plante, qui fait que si elle disparaissait dans son environnement naturel, nous en garderions la trace ailleurs.
Dans combien de temps à peu près on pourra aller voir votre mur ?
Je pense que l'hôpital sera terminé d'ici la fin de l'année, et je pense que pour la gare de Rabatville, où c'est immense, puisque c'est 300 mètres de quai des deux côtés qui sont entièrement végétalisés, on pourra découvrir ça au printemps de l'an prochain.
Bon, ben j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jean-François.
Avec plaisir, merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.